Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Il s'appelle Blemia Borovic, surnommé Boro. C'est un photographe reporter originaire de la Hongrie et qui traverse l'histoire du XXe siècle, la montée du nazisme dans les années 30, la guerre d'Espagne, ensuite l'occupation, la résistance, la naissance d'Israël, jusqu'à désormais la guerre froide en 1960. Un personnage littéraire créé il y a 35 ans sous la plume d'un duo d'écrivains, Franck et Vautrin. Jean Vautrin est décédé il y a 7 ans, mais Boro, lui, continue, porté désormais par un seul auteur, notre invité, qui publie le 9e tome des aventures de ce héros sous le titre « Boro Est-Ouest », avec toujours comme depuis le début la couverture du livre signé par Enki Bilal, un volume coédité par Fayard et Grasset. Bonjour Dan Franck.
Bonjour.
Après le chagrin d'avoir perdu Jean Vautrin et la tentation peut-être de ne pas continuer en solo, qu'est-ce qui vous a décidé finalement à poursuivre l'écriture de la série Boro?
D'abord, j'étais évidemment, il fallait que je fasse un travail de deuil, puisque mon copain n'était plus là. On a inventé ensemble Boro. Et en fait, je pensais que j'arrêterais, à vrai dire. Voilà, je pensais que c'était fini, que j'ai publié d'autres choses, d'autres livres. Et puis un jour, Boro est revenu. Je me suis dit, En fait, j'avais envie d'écrire sur la construction du mur de Berlin en 61. Et je m'apprêtais à réfléchir à un roman. Et puis je me suis dit, mais je vais faire Boro, quoi. Parce que c'est exactement le sens de ses bagarres et de ses combats.
Mmh. Alors rappelons à nos auditeurs et nos auditrices que Boro est né un peu sur un coup de tête, un jeu peut-être entre vous et Vautrin, sachant que vous ne vous connaissiez pas plus que ça au début. Vous ne vous lisiez peut-être même pas.
Même pas. On n'avait pas, lui, il n'avait pas eu le Goncourt, j'avais pas eu le Renaudot, on n'avait rien lu de l'un de l'autre. Mais en fait, on se rencontre un jour au Salon du Livre et on se dit pourquoi on n'inventerait pas un personnage qui serait un personnage de littérature feuilletonesque, comme était Dumas, Gensu ou même Balzac au début. Et c'était en fait des livres qui seraient bien écrits, contrairement aux livres que balançaient les éditeurs à l'époque, qui étaient souvent des livres écrits par d'autres d'ailleurs. Et donc on a inventé ce personnage et on a décidé que il parcourrait l'Europe des années. On commence en 33, c'est la Dame de Berlin, c'est la naissance du nazisme, et qu'on en ferait un héros, ce qu'on appelle un héros, c'est-à-dire un type, un bel homme, généreux, intelligent, il boite parce qu'il a eu un accident de parcours, mais c'est un dandy, donc il en fait autre chose. Il a une canne qui lui sert d'arme, donc il se bagarre sur tous les fronts des luttes des années 30, 40, 50, 60, avec sa canne, son Leica et ses copains qui sont photographes comme lui.
Et dernière parenthèse, vous rendez hommage évidemment à Vautrin en citant ici à plusieurs reprises un grand vin, un château Vautrin de 1933 qui a l'air d'être un grand cru. C'est ce que vous partagiez aussi avec lui, le goût des nourritures terrestres.
Un peu, mais c'est lui plus que moi. Lui, c'était un vrai bordelais, quoi. Moi, un peu moins quand même. Un peu moins.
Alors, parlons de ce nouvel épisode qui s'inscrit en effet à la suite des précédents, dans le même esprit, raconter la grande histoire à travers une petite bande et donc ce photographe reporter né en Hongrie, ce qui n'est pas, bien entendu, sans évoquer Robert Capa, le grand photographe qui avait un profil assez similaire.
C'était notre héros. Enfin, c'était le personnage qu'on voyait quand on écrivait Boro, on voyait Capa.
Donc Boro, vous l'avez dit, Dan Franck qui a été blessé à la jambe, qui boite un peu, qui a donc ce côté aussi dandy. Mais je me demandais ce qu'il incarnait exactement pour vous deux à l'époque et pour vous aujourd'hui. Est-ce que c'était le fait qu'il soit à la fois témoin, c'est-à-dire toujours sur les scènes importantes avec son appareil photo, mais aussi quelqu'un qui pouvait s'engager et ne pas rester neutre?
Il n'est pas neutre.
C'est ça.
Il n'est pas neutre parce qu'il choisit toujours son camp sur les champs de bataille qui sont les siens. C'est-à-dire, il est évidemment anti-nazi quand il essaie de sauver sa cousine. Parce que l'idée, c'est toujours, on a une histoire dramatique, policière, appelons ça comme on veut, dans la grande histoire. Donc, il va sauver sa cousine des griffes des nazis dans le premier. Après, vous avez le Front populaire, il est évidemment du côté du Front Populaire et pas du côté des bandes factieuses de l'époque. Et puis, la guerre d'Espagne, il couvre du côté républicain et la guerre, il est évidemment comme résistant. La Dame de Jérusalem, en 48, il vient en Israël. Et là, les choses sont un peu plus compliquées parce que quand il débarque d'Europe, il pense que les choses sont clairement dites, mais elles ne le sont pas, c'est très compliqué. Ça l'était déjà au moment de la naissance de l'État d'Israël en 48, ça l'est toujours aujourd'hui. Et là, ici, dans Borough Est-Ouest, il est du côté des jeunes qui vont creuser des tunnels sous Berlin-Est pour faire évader des Berlinois de l'Est qui sont bloqués par la Stasi. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine.
Donc ce que je veux dire, Dan Franck, c'est que c'était important d'avoir un personnage engagé.
Oui. Ben, j'en l'étais et je le suis. Donc
politiquement, oui. Avec vraiment des convictions,
oui.
Démarches, des actions.
Ouais, moi je voulais absolument pas, ils en ont plus, et donc même si je continue tout seul, c'est la même chose. De toute façon, vous savez, moi je pense qu'un écrivain participe de son époque, et participer de son époque, c'est aussi probablement raconter les époques antérieures. On a besoin d'un rétroviseur pour avancer, et c'est des partis pris qui sont en effet qui étaient les nôtres et qui sont les miens aujourd'hui.
Donc il n'est pas neutre, même quand il photographie Hitler, par exemple. Rappelez-nous d'ailleurs dans quelles circonstances.
Il commence dans la vie, c'est un grouillot de laboratoire, il va voir sa cousine qui est une star du cinéma allemand, il lui fait croire que c'est un grand photographe connu en France, alors qu'en fait il est rien du tout, elle le comprend, et elle lui achète un Leica. Le Leica étant l'appareil fétiche extraordinaire des photographes. Elle n'est pas tellement à l'époque d'ailleurs, mais ça l'est devenu. Et là, il croise un type qui est là avec une jeune nana. Il lui met la main sur les fesses et c'est Hitler et Eva Braun. Donc il prend cette photo et il ne se rend pas compte que... D'abord, il ne sait évidemment pas qui c'est. Et derrière, il y a un type qui est une espèce de garde du corps, qui a un gant. Et sur ce gant, il y a un sigle. Et en fait, les nazis vont essayer de rechercher la photo. Et donc le photographe, non pas parce qu'il a pris Hitler et Eva Braun, mais parce qu'il y a ce sigle qui est le sigle des cagoulards.
Qui est très compromettant.
Donc la cagoule recherche Borough. Voilà, c'est le premier tome qui est d'ailleurs réédité en poche à la Dame de Berlin.
Et justement, je vous parle de cette scène parce que c'est également une photographie décisive qui ouvre ici ce nouveau roman Borough Est-Ouest, dont le titre annonce autant évidemment la guerre froide que le parcours géographique de Borough, puisque le livre commence en Argentine en 1960. Et là, je mets 3 points de suspension parce qu'on va faire une pause musicale, Dan Franck. On va vous retrouver pour parler donc plus longuement de ces deux années 60 et 61 où il s'est passé beaucoup d'événements historiques qui résonnent aussi aujourd'hui. Ce serait un de nos sujets de conversation. En attendant, je vous propose d'écouter quoi ? Un tango argentin ou de la musique classique comme celle que joue l'une de vos héroïnes, qui est pianiste, alors Bach, Beethoven, Satie, Chopin.
Eh bien, allons sur Beethoven.
Oui, un morceau en particulier.
Sonate pour piano, mais je ne vais pas dire la 28e ou la 29e parce qu'elle est très longue, mais un moment de la Passionata qu'on connaît bien, tout le monde connaît, donc ce sera par exemple, mais ça peut être Bach aussi et ça peut être...
Non, restons sur Beethoven, on est là pour vous faire plaisir, Dan Franck.
Je suis ravi.
Vous êtes chez vous.
Le paysage alentour était d'un vert sombre lézardé par des traînées de poussière ocre. Elle dessinait des courbes et des angles qui empruntaient au cubisme une architecture peu compréhensible. Faute de pouvoir mieux s'occuper, Blemia Borowitz en suivait les méandres tout en gardant un œil sur les deux jeunes hommes qui observaient la route à travers les fentes pratiquées dans la bâche salée du camion. Il se tenait à croupetons, jumelles en main. Lui-même était assis sur un coffre en bois qui faisait office de banc. Il avait appuyé sa canne contre le caoutchouc d'une roue de secours boulonnée sur la tôle. Son matériel photo était enfermé dans une sacoche de cuir qu'il avait glissée sous ses genoux. Comme les deux inconnus, auxquels il fallait probablement ajouter le chauffeur du camion, qu'il n'avait pas quitté son siège, Borot attendait. Cela faisait maintenant 3 bonnes heures qu'il avait atterri à Buenos Aires. La douane franchie, il avait été embarqué par des hommes qu'il ne connaissait pas dans un bahut poussif et brinque-ballant, sans doute récupéré dans les rebuts de l'armée américaine. La fatigue du voyage pesait sur ses épaules. Elle était contrariée par l'excitation qui le gagnait toujours lorsqu'il mettait le pied sur le territoire d'un nouveau reportage. De celui-ci, il ignorait tout. Mais la source était crédible. Il avait une confiance absolue en la personne qui avait téléphoné au standard de l'agence Alpha Press, demandé à lui parler, laissé un nom et un numéro de téléphone qu'il avait rappelé depuis Düsseldorf, où il se trouvait lorsque le message lui avait été transmis. Il n'était même pas repassé par Paris. Il avait voyagé sur un Boeing 707 de la Lufthansa. À peine dormi, le dos moulu par les courbatures dues à la position quasi fétale qu'il avait conservée durant tout le voyage, faute d'avoir pu obtenir meilleur siège. Son voisinage immédiat se composait d'un enfant enrhumé qui toussait avec la régularité d'un coucou, saluant chaque minute. D'un père morigénant durement une mère aux petits soins, des interpellations répétées des hôtesses et garçons de cabine, exigeant que la canne fût rangée en amont du passage, ligne jaune infranchissable. De Buenos Aires, Borot n'avait rien vu, entendu seulement. Des klaxons, des vociférations, le fourmillement sonore d'une capitale encombrée de cycles, de voitures, de vendeurs à la criée. La 3e métropole du continent américain après New York et Chicago vantait un prospectus saisi au contrôle. On avait rapidement quitté le poumon de la ville pour des périphéries plus calmes, jusqu'à une succession de transversales qui avait abouti à une route mal carrossée en bordure de laquelle le camion avait stoppé. Depuis, on attendait. Qui ? Quoi ? Borot l'ignorait. Il éprouvait une sensation bizarre, comme s'il avait été enlevé par des kidnappeurs qui le laissaient libre de ses mouvements. Il avait tenté d'échanger quelques mots avec eux avant de comprendre qu'il n'obtiendrait aucune réponse aux questions qu'il se posait. Était-ce une consigne ? Il parlait une langue qu'il reconnaissait sans la comprendre. En ajustant une à une les quelques pièces dont il disposait, il avait fini par découvrir le genre de mission dont ils étaient chargés. Pour autant, la sienne lui demeurait inconnue. Il avait apporté ses appareils photo ainsi qu'on le lui avait demandé, mais ignorait quel usage il en ferait. Il savait seulement qu'il était là comme photographe ou comme reporter photographe.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain et scénariste Dan Franck, auteur d'une œuvre littéraire importante, marquée entre autres par la séparation. Récompensé par le prix Renaudot, bien entendu, mais aussi Roman Nègre et Le vol de la Joconde, sans oublier la formidable série des aventuriers de l'art moderne. Et que je reçois à l'occasion de la publication de Borot, Est-Ouest, coédité par Fayard et Grasset, ce 9e volume consacré au photographe reporter Borowitz, créé il y a 35 ans, on l'a dit en première partie avec Jean Vautrin, décédé en 2015. Une nouvelle aventure donc, qui s'ouvre en Argentine, où Borot est envoyé pour identifier le criminel de guerre Eichmann, qui après la Seconde Guerre s'est réfugié en Amérique du Sud sous un faux nom, évidemment. Et là, la police secrète d'Israël demande à notre héros de photographier l'oreille de cet individu pour être sûr que c'est bien lui, afin de l'exfiltrer et de le juger. C'est l'opération Attila. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire d'Anne Frank ?
Tout est vrai sauf Borot. C'est-à-dire qu'en fait, les Allemands, un procureur allemand avait repéré Eichmann en Argentine. Il avait donné l'information au Mossad israélien parce que il pensait que s'il donnait cette info au service allemand, ça marcherait pas parce qu'il y avait encore beaucoup d'anciens nazis dans les services allemands et dans les ministères. Donc il donne l'info au Mossad et le Mossad commence à chercher en Argentine. En effet, il trouve Eichmann, mais ils sont pas tout à fait sûrs et finalement ils renoncent. Et c'est Ben Gourion qui leur dit, mais il faut y aller parce que quand même c'est symbolique, on fera le procès de cet homme en Israël. Eichmann, à l'époque, travaillait chez Mercedes à Buenos Aires. Évidemment, on ne pouvait pas lui demander, il n'y avait pas d'ADN à l'époque, puis on ne pouvait pas lui demander une empreinte digitale, il n'aurait jamais accepté. Donc en fait, c'est là où c'est inventé, c'est que la seule manière repérer un homme quand vous ne pouvez pas prendre ses empreintes, c'est son oreille. On a tous une oreille unique. Et donc j'ai trouvé que c'était merveilleux d'envoyer mon photographe à Buenos Aires. Et donc l'histoire commence là-bas, où en effet, il permet l'arrestation, l'identification, donc l'arrestation de Eichmann, qui aurait pu se faire sans lui, évidemment.
Et là, qui s'est faite sans lui, d'ailleurs,
dans la vraie histoire. Mais je raconte la vraie histoire. Donc en fait, je raconte exactement comment on l'a pisté, comment on l'a enlevé, quelle a été sa réaction, etc. Tout le fond de l'histoire est vrai, quoi.
Alors ce qui est très savoureux d'Anne Frank, c'est qu'il y a ce détail important. Le fait que Borot utilise un appareil photo dont le déclencheur fait du bruit, évidemment à l'époque, ce qui pourrait alerter sa cible dans un bus où il est derrière lui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de tous ces détails, en effet, qui sont liés à l'époque et qu'il ne faut surtout pas oublier sous peine de créer des anachronismes. Ça suppose une documentation très précise ou pas ?
Oui, bien sûr. Moi, vous savez, j'ai fait beaucoup de livres comme ça sur l'histoire ou l'histoire de l'art ou la vie des bohèmes à l'époque de Montparnasse et Montmartre. Et j'ai l'habitude de mes sources sont toujours les mêmes, en fait. Les meilleures sources, je trouve, ce sont les témoignages de l'époque, les journaux de l'époque, les journaux intimes, et puis les journaux, les mémoires, les témoignages des uns sur les autres. Voilà. Et donc, quand vous lisez tout ça, vous avez des tas de choses qui reviennent, qui apparaissent, qui reviennent à la surface, qui sont des détails de vie quotidienne, mais qui sont des détails importants parce que ça montre aussi combien on a avancé depuis cette époque-là.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'y pense pas au bruit que pouvait faire un appareil photo quand on le déclenchait.
Et encore, je vais vous dire, le Leica est un appareil, c'est l'appareil qui faisait le moins de bruit au monde. Il était tout petit et c'est Capa qui l'a utilisé beaucoup. La première fois, je crois qu'il photographie Trotsky dans un congrès international. Je pense que c'était Amsterdam, je ne suis pas tout à fait sûr, mais pas loin en tout cas. Et Trotsky se méfiait, c'était des grosses chambres, des très gros appareils avec des flashs. Et Trotsky n'en voulait pas parce qu'il disait que Staline était derrière. Et donc Capa est arrivé avec un tout petit Leica, qui était un des premiers, et il a photographié Trotsky sans Claude s'en rendre compte, et surtout sans menace. Voilà. Et là, c'est un appareil totalement mythique à cause de ça.
L'importance des détails. Donc après cette première aventure, Borot revient à Paris. Là, il retrouve ses associés photographes, reporters hongrois également comme lui, plus un garçon, plus jeune. Jolan, c'est ça ?
Oui, Jolan.
Qui a été sauvé par Borot,
oui,
en 1956 à Budapest.
Oui, je raconte aussi les événements de Budapest, voilà, parce qu'on est obligé, Borot est hongrois, et donc pour lui c'est une brisure. Et pour moi, ça a été important d'inventer ce personnage. Je vous explique pourquoi. C'est vraiment un souci d'écrivain, c'est d'écriture. Borot, quand on l'invente avec Jean, il a 20 ans. Aujourd'hui, il en a 50. C'est pas le même bonhomme. Alors il a une sagesse. Il a été touché par des douleurs, des chagrins dans la vie, notamment à Budapest 56. Et donc, il est devenu très protecteur. C'est un protecteur, en fait. Et ça me manquait, le côté jeune garçon un peu intrépide. Et donc, je lui ai inventé un alter ego, enfin, qui a aujourd'hui 20 ans, c'est-à-dire l'âge qu'avait Borot quand il a commencé. Et c'est lui qui est une espèce de double jeune, c'est lui qui est fougueux, c'est lui que Borot protège, ramène à la raison, aide, parce que finalement, c'est grâce à Borot que les tunnels vont se creuser sous,
oui,
Berlin.
Oui, parce que ça nous amène évidemment à la suite des aventures et à cet événement spectaculaire, l'un des plus spectaculaires de notre histoire, d'autant plus qu'il était inédit, c'est la construction
du mur
de Berlin en août 1961.
61.
Alors vous étiez encore tout petit, Anne Frank, à cette époque,
ben ouais,
vous n'avez pas de souvenirs, mais ça doit être assez jubilatoire d'écrire sur quelque chose qui devient contemporain.
Mais c'était un drôle de truc. Oui, parce que d'abord, on oublie que c'est à l'époque. Quoi. En fait, au bout d'un moment, on est tellement dans l'écriture qu'au fond, c'est comme si c'était aujourd'hui. Et là-dessus arrive l'Ukraine.
C'est-à-dire que on va en parler dans un instant, oui, en effet.
Moi, j'avais écrit longtemps avant. Le livre est fini depuis 2 ans. Mais dans cette époque-là, dans ces années 61, moi, je me rendais pas compte. Je suis parti sur le mur de Berlin, je me suis rendu compte qu'il y avait Eichmann, l'arrestation d'Eichmann, il y avait la baie des cochons à Cuba, il y avait la guerre d'Algérie.
Oui.
Et les porteurs de valises, la résistance en France.
Que Borot héberge d'ailleurs.
Que Borot héberge. Borot est de ce côté-là, bien entendu. Il assiste à cette manifestation du 17 octobre 61 où il y a eu des dizaines de morts d'Algériens balancés
dans la Seine. Noyés.
Et tout ça, évidemment, il le photographie. C'est une période en fait qui est extrêmement dense. Et le livre est dense lui-même parce que quand vous faites vivre un reporter photographe, il y a lui et ses deux copains, mais vous ne pouvez pas passer à travers ces événements-là, qui sont des événements constitutifs de ce qu'on est devenu aujourd'hui.
Donc ce mur de Berlin, donc ils partent là-bas, Jolan, pour récupérer cette jeune pianiste dont il est tombé amoureux entre-temps, même si au début, sans doute, c'était une histoire d'espionnage.
Il y a une histoire d'espionnage.
Et il devait l'approcher pour accéder à son père. Bon, toujours est-il que ils partent tous à Berlin pour exfiltrer cette jeune fille et puis d'autres Berlinois, comme vous le disiez tout à l'heure, d'Anne Frank, en creusant des tunnels. Ça aussi, c'est très documenté.
Ah ben ouais. Oui. Non, j'ai beaucoup lu autour de ça. C'est des actes, ce sont des personnages extraordinairement courageux. C'est les jeunes. Il n'y avait pas que des Berlinois. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont venus du monde entier pour les aider. Tellement c'était énorme de construire un mur pour partager l'Europe, pour construire un mur afin d'éviter que les Allemands de l'Est passent à l'Ouest, c'est en fait pour fuir le modèle occidental. Enfin, je veux dire, ils fuyaient le modèle oriental et à l'Est, on voulait fuir le modèle occidental. Et donc, on a construit un mur pour partager ça.
Avec des scènes terribles, des gens qui se jettent dans le vide parce qu'il y a des bâtiments, évidemment, qui sont sur cette frontière arbitraire, des gens qui sont tirés à vue, des choses terribles. Donc, vous vous êtes replongé dans la documentation.
Oui.
Et ces tunnels, ils étaient nombreux ?
Oui, il y en avait pas mal. En fait, il y a eu des tas de méthodes. Les Allemands de l'Est ont essayé de fuir en voiture, en trafiquant les coffres, en ballon. Il y a même eu des tentatives en ballon. Par l'Achepré en passant sous le fleuve, mais au fur et à mesure que les mois avançaient, la Stasi trouvait des parades. Et finalement, ce qui a fonctionné le mieux, c'était les tunnels. Il y en a eu quelques-uns. Quelques-uns se sont fait prendre, c'est-à-dire que la Stasi est descendue, a tiré, on a inondé les tunnels. Mais enfin, il y en a qui ont fonctionné, quoi. Et ça a duré quelques années.
Et c'est tout ce qu'on découvre avec vous. D'ailleurs, ça reste un peu en suspens, hein, votre roman. Donc, on espère bien qu'il y aura une suite. On en parlera dans un instant. Mais comme vous le disiez, d'Anne Frank, c'est quand même effrayant, en vous lisant aujourd'hui, de voir à quel point ce que vous racontez de la guerre froide résonne aujourd'hui avec cette agression meurtrière de la Russie en Ukraine. On a l'impression que les enjeux géopolitiques de l'époque, donc depuis 60 ans, n'ont toujours pas été réglés.
C'est incroyable. Moi, j'ai été, comme tout le monde, très touché par l'Ukraine, d'autant que moi j'avais fini ce livre depuis 2 ans. Je pensais que moi j'étais vraiment dans l'histoire. Je pensais pas que j'étais dans l'actualité, même si l'histoire permet de comprendre l'actualité, raison de plus avec l'Ukraine. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Ukrainiens veulent aller vers l'Europe. Vers l'Europe occidentale et les staliniens, parce que Poutine est le pire des staliniens, veulent pas. Donc ils veulent garder cette espèce de glacis. Il est même pas en accord avec les bolcheviks, puisque lui, ce qu'il veut, c'est ressusciter la Grande Catherine, la Russie de la Grande Catherine. Mais c'est la même violence, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes choses. Et je dirais aussi que quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui sur l'avortement, qui est interdit maintenant, ou qu'on peut interdire dans les États, vous vous dites, on est en plein dans les années 60. D'un côté, il y a une intolérance absolue sur les droits des femmes, sur les libertés, et de l'autre, une intolérance absolue sur tout ce qui n'est pas nationalisme. Quoi.
Ça doit être vertigineux quand on est écrivain, d'avoir l'impression de regarder dans le rétroviseur avec des romans historiques, et en fait se dire, je suis peut-être en train d'écrire ce qui se passe en ce moment, voire demain.
Ben, je me dis que peut-être que dans 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, il y aura un nouveau Francky Vautrin qui racontera l'Ukraine comme j'ai raconté Borro Est-Ouest. Et ce sera la même histoire, quoi. C'est, encore une fois, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes tactiques, c'est les mêmes raisons. C'est épouvantable. C'est absolument épouvantable.
Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même du plaisir à écrire ce roman? Parce que nous, on en a beaucoup à lire. Et comme vous le disiez tout à l'heure, d'Anne Frank, c'est aussi du roman populaire. Donc, il ne faut pas que ce soit un roman qui soit trop déprimant. Enfin, je veux dire, il y a un équilibre à avoir là entre les deux.
Mais oui, parce que en fait, le principe, c'est de faire. Moi, j'écris des séries, par exemple, beaucoup pour la télévision, et que ce soit pour les séries pour Borro ou même pour mes autres livres, je respecte toujours les règles qui ont été formulées par les écrivains français du 19e. C'est-à-dire qu'il y ait de la joie à lire. Moi, je dis toujours que quand on s'emmerde en écrivant, on s'emmerde en lisant. Donc, ou bien ça doit être intéressant, ou bien il faut qu'il se... Et puis, ça doit bouger, il doit se passer des choses. C'était la règle des feuilletonistes. C'était le plus grand étant Dumas, qui était incroyable pour ça. Et il y avait même cette expression, ce qu'on appelle aujourd'hui les cliffhangers, on appelait ça des traquenards d'intérêt.
C'est oh, Sainte-Beuve. Que c'est joli,
mais oui,
comme expression.
C'est la même chose.
Traquenards d'intérêt.
Oui. Et pourquoi on appelait ça? C'est parce qu'en fait, la règle donnée aux écrivains, par Gérardin, qui était un homme de presse et qui avait demandé aux écrivains, qui a développé la presse moderne à partir des feuilletons des écrivains, Il disait, mais il faut que quand on a fini de lire le lundi, il faut qu'on ait envie d'acheter le journal le mardi. Donc faites en sorte que dans vos histoires, il y ait suffisamment de cliffhanger ou de traquenard d'intérêt pour que les gens aient envie de continuer. C'est d'ailleurs pour ça que Balzac s'est fait dépasser très vite, parce que Dumas était plus fort que lui, et lui-même a été dépassé par Eugène Sue, qui était encore plus fort. Mais c'était les mêmes règles qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'un livre, ce sont des romans d'aventure, il faut que ça reste un roman d'aventure, mais il faut aussi que on apprenne des choses. Et quand vous faites, par exemple, quand vous lisez Les Trois Mousquetaires, vous apprenez plein de choses sur les mousquetaires, sur la royauté, et de même quand vous lisez
sur
la reine Margot, etc. Voilà. Et donc c'est un rapport à l'histoire qui doit être à la fois, qui doit enseigner, mais qui doit être jubilatoire.
En tout cas, ici, un traquenard d'intérêt, il y en a un sacré à la fin. Donc on est assuré d'un dixième épisode.
En principe, oui, en principe, si j'ai envie, enfin, c'est quand j'aurai envie, je dirais.
Avec Jean Vautrin sur votre épaule,
ah,
au-dessus,
ouais.
Qui vous parle, bah, qui vous engueule, qui vous encourage.
On s'engueulait jamais, oui, il m'encourage.
Qui rigole.
Oui, il rigole, c'est marrant. Et quand je fais du Vautrin, il doit se marrer là-haut.
Ah, donc il y a quelque chose qui s'est passé entre vous.
Vous écrivez pas comme ça ces volumes, c'est pendant 30 ans, 9 volumes, sans avoir une complicité parfaite, que ce soit avec lui d'ailleurs, ou même avec Bilal, qui est un de mes grands amis.
Avec qui vous avez coécrit également.
Avec qui on a coécrit des scénarios, des choses comme ça, mais enfin des scénarios de films, hein, une fois ou deux. Mais on ne peut pas, c'est impossible, vous partagez trop de choses. C'est d'ailleurs Enki qui a trouvé le titre de Borro Est-Ouest. Enfin bref, il faut qu'il y ait dans le travail en commun, il faut qu'il y ait à la fois de l'affection et aussi beaucoup d'admiration. Il faut s'admirer l'un l'autre, sinon c'est très difficile.
Avec beaucoup de fraternité également, dans tous les sens.
Ah oui,
du terme.
Bien sûr, bien sûr.
Vos personnages et aussi ce qui se passe entre vous. Merci beaucoup, Dan
Frank, à vous. Merci
d'être venu nous parler de ce Borro Est-Ouest qui paraît chez Fayard et Grasset. Un livre où il y a aussi une très belle histoire d'amour. Et puis surtout, on apprend tellement de choses sur notre histoire d'hier et d'aujourd'hui. Merci encore.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.